Allô, Flo?
Oui?
Dis, tu fous quoi aujourd'hui?
Oh, bah, rien.
Ah ouais? Bah, tu vois, j'ai une idée, là. Ça te dirait pas qu'on aille voir Heyerdahl?
Ah ouais, pourquoi pas? Justement, je suis en train de lire Mittal.
Oh, trop cool. Moi, je l'ai lu, j'adore. Allez, on y va.
Nous sommes donc allés voir Heyerdahl et sa compagne Sarah. Et nous avons passé 4 heures fort agréables à discuter.
Et voilà, et on vous sert le résultat.
De la difficulté d'être écrivain.
C'est difficile d'être honnête dans la critique qu'on a de soi-même. Et c'est vrai que j'ai tendance à me tromper de façon systématique. C'est-à-dire que ce que je trouve bon, très clairement, il faut que je le fasse sauter. Parce que... on est entre la diarrhée intellectuelle et la pensée masturbatoire, donc c'est pas brillant. Et de toute façon, il n'y a une seule fois dans ma vie, en terminant un bouquin, j'ai été satisfait de ce que j'ai fait. Sinon, il y a une période derrière où c'est quand on dit « Bon alors, c'est quoi celui-là ? » Bah, de la merde. J'ai du mal à avoir le recul suffisant pour faire autre chose que dire « C'est con, bah, enfin, je continue à écrire parce que celui-là, comme je l'ai foiré... » Voilà, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir une lectrice maison, d'avoir un Jean-Claude Duniac qui, excepté dans Transparence, excepté Transparence, mais tous mes autres écrits depuis 1994 sont passés dans les mains de Jean-Claude avant d'aller chez l'éditeur, avec parfois des regards extrêmement... enfin, c'est toujours extrêmement franc, mais grâce à lui, les lecteurs ont échappé à un certain nombre de chapitres lamentables. Et... C'est dans les deux sens, hein. Tout ce qu'il a écrit est passé dans mes poignets aussi, et c'est bien, ça me permet souvent, quand je commence à désespérer un peu, de me dire, ah, finalement, c'est pas si mauvais que ça, je continue. Le dernier, Résurgence, je lui ai envoyé les chapitres au fur et à mesure, quoi. J'étais tellement pas sûr de ce que je faisais, j'ai mis tellement longtemps à choisir la forme sous laquelle j'allais le travailler, que bah, j'ai eu besoin de regarder. En fait, j'ai appelé Jean-Claude au secours. Là, c'était pas simplement lis et dis-moi ce que tu en penses, c'était lis et interviens dans l'écriture.
Pourquoi Transparence ?
Transparence est un bouquin que j'ai écrit pour plein de mauvaises raisons. La première, c'était que je voulais mettre un pied dans le thriller, je voulais montrer aux auteurs de SF que c'est pas parce qu'on nous traite d'auteurs de SF qu'on a des portes fermées partout. Si on fait le boulot tel qu'on sait le faire, ça passera dans tous les domaines. Et le plus simple pour nous, c'est de basculer sur le thriller, parce que c'est un des rares domaines littéraires qui, comme la science-fiction, réfléchit l'ensemble du monde et de l'humanité. Donc, enfin, c'est pas des regards microscopiques comme le polar, c'est plutôt un regard macroscopique tel que nous, on travaille. Et la deuxième, c'est que je voulais faire un essai, c'est-à-dire avoir un bouquin qui reste quand même très littéraire, mais qui donne envie à une maison de production ou à un réalisateur de l'adapter au cinéma. Ouais. C'était un défi de ce côté-là. Ouais,
il y a de quoi.
Oui, il a été acheté le bouquin. Ah. Le problème, c'est qu'il a été acheté par Jean-Jacques Hano, qui depuis s'est planté très très fort avec Le Roi Mineur. Et je pense qu'il ne sera jamais tourné, en tout cas pas par Hano. De toute façon, il perd les droits l'année prochaine, si je ne m'abuse.
Et Résurgence ?
Quand j'ai eu l'idée d'écrire une suite, pas d'écrire une suite, de remettre en scène les personnages, d'abord ça s'est passé aux Utopiales. C'est l'année où tous les Américains ont débarqué en pleurs de l'avion parce qu'ils ont appris pendant le voyage que George Bush était réélu. Et où Jim Morrow a fait un discours terrible en disant pour la première fois, je vous autorise à dire les Américains. C'est-à-dire que pour lui, il était toujours clair quand on n'avait pas le droit de parler des Américains, de parler éventuellement de l'establishment américain, des politiciens américains. Mais c'est absurde de confondre toute une nation avec les conneries qui sont faites par l'État ou un certain nombre de trusts. Et là, il a balancé cette phrase et ça a été un choc assez terrible. Elle c'était exactement l'inverse d'une des phrases prononcées par Stéphane Bellanger dans Transparence, qui disait « il ne faut jamais dire les Américains », justement, tel que Jim me l'avait appris. Non, pas appris, je ne suis pas complètement un crétin, je n'avais pas besoin de Jim pour inventer ça, mais... Et j'ai eu cette sensation que Naïs me tapait sur l'épaule et disait « tu crois pas qu'on devrait mettre notre grain de sel là-dedans » Et bon, donc du coup l'envie d'écrire un second. Le temps est passé, ma vie a légèrement changé, et puis les Français ont eu la gentillesse d'élire Sarkozy. Et là, il n'y a pas que Naïs qui est venu me taper sur l'épaule, il y a Michel qui est venu me taper sur l'épaule et qui m'a dit, bon, cette fois on y va, là, c'est bon. Donc, il fallait qu'en utilisant mes mêmes personnages, je continue à faire une histoire qui soit très thriller, puisque le bouquin a cartonné. C'était la première fois que je faisais des chiffres pareils. Tu te rends compte, 100 000 ventes en poche, mais pour un auteur de SF, c'est du délire absolu. Donc, il fallait quand même que je
Ça
déçoive
va
pas
vite
trop
quand
mes
même.
lecteurs de thriller, tous ces lecteurs qui sont venus me dire quand même que pour un premier bouquin, j'avais fait un bon boulot. Quand on est à ton 20e, ouais. Et il fallait aussi que je dise le mieux possible ce que j'avais sur le cœur. Et il fallait que je trahisse rien, non, ni mes lecteurs de thriller, ni mes idées, ni les gens avec lesquels j'avais travaillé. Et c'était pour moi très dur de jongler. J'avais l'impression, quand je faisais bien mon boulot de Heyerdahl, que je faisais mal mon boulot d'auteur, c'est-à-dire que le suspense n'était pas terrible, que l'histoire thriller en elle-même fonctionnait à peine moyennement. Et quand c'était le contraire, j'avais l'impression de foirer complètement le. C'est pas un message, c'est montrer. Enfin, c'est.
La dimension
La
politique.
dimension, ouais, politique, là.
Non, mais t'as rien foiré,
Oui, mais
rien du tout.
ça, tu t'en aperçois six
Ben
mois
oui.
après que le bouquin soit publié. Mais avant, il a fallu que Jean-Claude me dise, mais non, ça fonctionne, il a fallu que Sarah me le dise. Ça a été assez, non pas douloureux d'écrire ce bouquin, mais parfois très pénible. Au bout du compte, j'aurais mis peu de temps à l'écrire, alors que j'ai passé énormément de temps à essayer de l'écrire. Pas, ouais, j'ai dû passer 2 ans à essayer de l'écrire et 3 mois à l'écrire.
Donc, tu lâches l'ASF pour le thriller.
Je pense que je vais poursuivre là-dedans. C'est-à-dire que je vais multiplier les thrillers. Dans Transparence, ce n'est pas qu'un thriller, c'est aussi un petit aspect fantastique dedans.
Oui.
Résurgence, il y a un petit aspect science-fiction, puisque c'est une distorsion de la réalité à certains moments. C'est presque de la spéculative. Le thriller sur lequel je suis en train de travailler, lui, c'est un thriller pur.
Très politique.
Oui, très politique. Là, oui, parce que du coup, j'en rajoute encore une couche. Et le suivant, en fait, je vais en avoir deux derrière qui sont pour moi de la science-fiction, mais les lecteurs ne le verront pas.
Mais tu es bourré de projets. Qu'as-tu d'autre dans ta manche?
Ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire une utopie et que je n'en ai pas le courage. Que je ne me sens pas les compétences pour le faire. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il suffisait de s'entourer de gens compétents. Voilà, donc ben en ce moment, on a une petite douzaine à travailler dessus, chacun avec ses spécialités professionnelles, entre guillemets, mais en tout cas de culture et de compétences. On réfléchit à tout ça, je serai la seule plume. Il vaut mieux qu'il y ait une unité au moins là-dessus. Déjà, ça va être un bordel, quoi. Le principe de base étant, tiens, il y a eu une révolution, on se retrouve au pouvoir, on fait quoi?
Et la SF alors?
La science-fiction, j'y reviendrai, je ferai même du space opéra, on a un projet ensemble, entre autres. On a aussi, avec Jean-Claude, ça fait 1 an qu'on parle d'écrire un troisième épisode des Étoiles. J'ai, à titre personnel, un bouquin que j'aurais dû écrire avec mon père avant qu'il décide lâchement d'abandonner la vie. Je sais même pas si on peut appeler ça un space op. Ouais, c'en est un. Je sais pas, un truc complètement. Donc la science-fiction, je n'arrêterai pas.
La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. S'il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme en visant des cibles et non comme un enfant au hasard en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre les détonations. Jean-Paul Sartre.
Ah oui, mais ça, de
Parole
toute
d'une
façon, je n'écris qu'à
écrivaine.
cause de ce monsieur. Voilà. En plus, un type qui a refusé un Nobel. Il avait toute ma sympathie dès le départ. Mais ça reste. C'est une citation permanente. Bon, maintenant, je l'ai enfin collée dans un bouquin, donc peut-être que je vais arrêter de la prononcer.
Dans deux.
Je l'ai collée dans deux. Oh merde.
J'ai relevé.
Je l'avais déjà foutu dans la Bohème Élirée? Ah, ça m'étonne pas, ça.
Mais d'où viennent toutes ces connaissances qu'on trouve dans tes écrits?
Je suis complètement autodidacte. En fait, la seule formation que j'ai faite dans mon existence, non, j'en ai fait deux. J'ai fait une formation d'animateur socioculturel. Bon, j'ai le DEFA, donc tu vois, ça a été poussé un petit peu loin. Enfin, ça va jusqu'au bout d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais j'ai aussi travaillé comme éducateur et j'ai mon autre formation, c'est le marketing.
Ah ouais.
Pardon, excusez-moi.
Ça, c'est du scoop.
Ça m'a
J'adore
appris plein
ça,
de choses. Ça m'a appris,
moi.
enfin, c'est incroyable comment on comprend mieux les interactions entre êtres humains et les réactions d'un individu face à plein de choses quand on l'a étudié avec de très mauvaises raisons, de très mauvaises visées, purement commerciales, mercantiles. Je pense que je dois en partie à ça le fait d'être aussi à l'aise dans la création de mes personnages et de ce qui fonctionne entre les uns et les autres. L'aspect politique, lui, il est plus venu du milieu socioculturel, je ne sais pas pourquoi. Mon père était président de la MJC, ma mère était directrice de la première école ouverte en France. Je baignais dans un climat politique de terrain dès l'enfance, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme formation. Le reste, c'est formation reçue. Le reste, c'est tout autodidacte.
Parce qu'en géopolitique, t'es quand même costaud.
Oui, la formation, elle est permanente. Donc, je lis tout ce que je peux. En ce moment, je suis plus concentré sur on va dire, les sciences dites exactes.
Oui, j'ai l'impression aussi qu'en maths, t'es un peu. Non?
Ouais, mais c'est
T'es calé?
de la faute à mon père. C'est chiant, mon père. Il a essayé très tôt de tout m'apprendre, en fait. Et comme il était de formation astrophysicienne, et puis qu'il est devenu chimiste, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Dans ces domaines-là, oui, j'ai plus rien appris à l'école. Pas dans le secondaire, j'ai jamais rien appris. Mon père m'avait déjà tout appris avant. Heureusement, tout ça s'oublie.
T'es sûr?
Ton ambition d'écrivain, allez, dis-le, c'est quoi?
C'était un rêve que j'avais déjà vers 13-14 ans d'être. Un rêve, ouais, un rêve. Il y avait un petit côté pré-ado ou ado qui dit je ferai un jour quelque chose d'utile dans ma vie. Je vais être le philosophe qui va apporter la possibilité au monde de se changer lui-même. Rêve de gamin, tu vois, c'est bien, mais ça m'a poursuivi, ça me poursuit encore. La preuve, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chaque fois qu'on discute, on est en train de faire le monde.
J'avais envie de savoir, lequel de tes livres te satisfait le plus?
La maison des mères. À l'époque, j'étais très jeune, je signais Frank Herbert. C'est la dernière fois que j'ai signé sous ce nom, parce qu'après, je suis mort bêtement. Non, c'est impossible pour un auteur
D'ailleurs.
de dire réellement quel livre dont je suis plus satisfait. C'est probablement le dernier, comme toujours. Parce que je l'ai détesté juste après l'avoir terminé. J'ai tellement douté de ce qu'il était quand je l'écrivais. Bah aujourd'hui, comme j'ai quelques retours positifs, je me dis oui, voilà, mais c'est le plus récent. Et puis, voilà. Mais le livre qui me satisfait le plus, c'est l'un des prochains que je vais écrire.
Les écrivains qui t'ont marqué, c'est qui? Des noms!
Frank Herbert a fait le meilleur bouquin, tout genre confondu, qui ait jamais été écrit.
Et d'autres?
D'autres, Norman Spinrad, de très loin. Alors là, ça a été une révolution de lire Norman Spinrad. Enfin, une révolution. Oui, parce que je lisais beaucoup d'auteurs américains et chez la plupart, il était évident pour moi qu'ils étaient de droite. Et d'une droite que je n'aimais pas. Je ne sais pas si on peut aimer la droite quand on n'est pas de droite, mais de choses qui m'inquiétaient, quoi. Même chez Heinlein, on a de temps en temps des discussions avec Sarah. Pour moi, Heinlein, c'est un mec de droite et c'est pas parce qu'à un moment donné, il a viré sa cutie, mais pour un seul bouquin en plus. Voilà. Et donc tomber sur Norman Spinrad, dès le début de ce que j'ai lu, Jack Baron et l'éternité, je crois que c'est le premier bouquin que j'ai lu de Spinrad. Ah, c'est une claque. Et puis derrière, il y a eu les miroirs de l'esprit. Alors là, c'est bon. À tout jamais, ce type était mon héros. Ce qui est très drôle, parce que le jour où je l'ai rencontré en chair et en os pour la première fois, c'était à la remise du prix de l'imaginaire pour Demain une oasis. Ça se passait dans les locaux du Fleuve Noir. Je venais de changer de directeur littéraire. Donc c'était Philippe Huppe à l'époque. Nos petites fêtes, une cinquantaine on était, quoi. Et j'étais en train de discuter, je ne sais pas avec qui, probablement avec Jean-Claude Dugnac. Philippe Huppe me tape sur l'épaule. Je me retourne et il dit à Heyerdahl en me présentant, Norman Spinrad. Et j'ai plus pu dire un mot de la soirée. Je me suis retrouvé comme un gamin face à un héros, tu vois. Bon, heureusement, Norman est ce qu'il est. Le lendemain, il est venu me voir en séance de dédicace et il a passé la journée à me faire rire. Dans la SF, il y en a un autre qui a été extrêmement important, c'est John Varley. John Varley, qui est le premier auteur masculin à traiter le genre quel qu'il soit masculin, féminin ou androgyne, d'une façon totalement libre, moderne et intelligente. Je pense que ça fait partie de ce qui m'a permis de construire mes personnages féminins, mes personnages masculins et aussi mes personnages androgynes, puisqu'il y en a quelques-uns. En France, il ne faudra pas oublier quand même des gens comme Philippe Curval, John Brunner, il n'est pas français, mais ça fait rien. J'en oublie forcément parce que je cite jamais les mêmes. Donc, ces gens-là sont importants parce qu'ils ont fait partie de ma construction de lecteur. Donc forcément, quand j'ai commencé à écrire, il y avait un héritage direct entre ce que j'avais lu et ce que je me suis mis à écrire.
Mais avec tous tes projets, t'as encore le temps de lire ?
J'ai toujours le temps de lire. Ouais. Je me suis quasiment arrêté net il y a 4 ans et depuis, j'ai plus envie de lire des romans. Je lis plus que des trucs, quasiment plus que du scientifique. Et bah, je fais l'effort de lire quelques bouquins dans l'année parce que Sarah ou Micheline me disent « Putain, celui-là, faut à tout prix le lire. » Je suis jamais déçu, parce que comme ils ont fait le filtre, il y a eu 2 filtres avant que ça m'arrive dans les pognes. Donc cette année, qu'est-ce que j'ai lu d'extraordinaire? Le dernier, Catherine Dufour. Voilà, il y a eu World War Z, ouais, du fils Brooks, donc Max.
Max Brooks.
Max Brooks. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Je ne sais plus.
Voilà, il y a quelques bouquins, mais j'en ai lu très peu et je n'ai lu que des bouquins dont on me garantissait que ça allait me plaire. Donc,
Je le laisse.
Non, pas du tout.
Colum McCann.
Colum McCann. Donc, qui est pour moi le plus grand auteur vivant avec. Allez, on va rajouter John Irving, on va pas de chien quand même. Mm-hmm. Des gens qui font des choses que personne n'ose faire. Et qui ont une façon de conduire leurs histoires, leurs personnages. À chaque fois, ça me met sur le cul. En plus, Colum McCann a une technique d'écriture qui est en apparence extrêmement simple. Pas d'adverbe, pas de mots de liaison trop, ça paraît très sobre.
T'as lu Millennium aussi?
Ah ouais, il y a un type là qui a fait un mec qui m'a pompé. On s'en rend pas compte.
Ça me rappelle quelque chose.
Bah, son bouquin est sorti 2 mois après le mien, donc forcément. Ouais, mais c'est drôle qu'on ait pu écrire en même temps. Des bouquins dont les thèmes sont aussi proches et dont les personnages principaux sont aussi proches aussi, quoi, parce que sans Mickey, c'est mon Stéphane.
Et surtout, entre Lisbeth Salander et Naïs, Anix, il y a
un léger rapprochement. Donc, devait y avoir un truc dans l'air. Si jamais j'avais pensé un jour avoir envie de prendre la plume de quelqu'un d'autre. Mais j'écrirais bien la suite des aventures de Lisbeth Salander et de Mick Hellström.
Hellström.
J'apprécie beaucoup tes nouvelles. Et je me demande pourquoi t'en fais pas plus.
Except qu'en général.
Parce qu'il y a juste, la logique des dessins.
Le retour de Jessie, alors c'est bien. J'ai rigolé du début.
Elle aussi, elle apprécie. Pourtant, elle n'est pas nouvelle. Hein.
En fait, les nouvelles, il y a 2 choses. Beaucoup de mes romans de 800 pages, au départ, je pensais écrire une nouvelle. D'accord. Je dis beaucoup, mais non, il y en a quelques-uns quand même. Je ne sais pas faire cette chose tout bête, c'est ne regarder qu'un petit coin, qu'un petit groupe de personnages. Ou, moi, il faut tout de suite que je comprenne comment fonctionne le reste de l'univers dans le même temps, parce que c'est de ça que je veux parler, c'est pas du fait qu'il y a un type qui a mis 2 sucres dans son café au lieu d'un seul. Ni du plaisir qu'il peut prendre à se faire couper les boboles pour être exposé semi-vivant dans un musée. L'un des meilleurs textes de Jean-Claude Dugnac.
Oui, tout à fait.
Dugnac est un nouvelliste, vraiment. Il a l'œil, il a l'oreille, il a tous les sens. Et surtout, il sait reboucler une histoire sur elle-même avec une facilité déconcertante. Moi, une histoire qui se boucle, ça m'emmerde. Je suis à l'aise dans les très grandes distances. Je ne suis pas très à l'aise dans les courtes distances, parce qu'au contraire, il faut tout limiter. Et puis, du coup, c'est énormément de boulot. Qu'est-ce qu'on va donner comme exemple? Ce que je considère comme la seule nouvelle que j'ai réussie, donc Scintillement, m'a demandé autant de travail que Demain une oasis.
Mais quand même, je reviendrai bien sur Le retour de Jessie, parce que c'est une nouvelle quand même, parmi ce que t'écris, qui est vraiment très particulière. C'est venu d'où ça?
Le retour de Jessie? Bah, je suis un grand amateur des proches. Voilà. Je crois que je sais pas combien de fois j'ai pu lire et relire des proches tout entier. Et j'ai toujours rêvé de faire un truc drôle. En fait, je m'étais dit un jour, je ferai un roman, un petit roman de 150, 160 pages, un truc qui sera humoristique du début à la fin, comme certains auteurs savent le faire. Sauf que je ne sais pas faire ça.
Ah, moi, ça m'a bien fait rigoler, en tout cas.
Puis c'était un petit peu de la provocation par rapport à quelques auteurs. Voilà, entre autres, Roland Wagner m'avait dit que jamais j'arriverais à faire rire qui que ce soit. Et je crois qu'il a été le premier à s'écrouler de rire en disant Jessie.
Tu fais évoluer tes personnages non au sein d'un microcosme, mais à l'échelle d'un univers.
À mon avis, une des erreurs fondamentales de la culture occidentale, c'est qu'elle examine les choses une par une. Il y a un problème à un endroit, on va regarder ça. La grande technique de Sarkozy et de quelques-uns de ses prédécesseurs, c'est problème, loi. Donc problème, compréhension du problème, action. Et non, il n'y a pas un problème. Ce problème est en rapport avec un problème ici, un problème ici, un problème ici, un problème ici, un problème ici. Et j'ai toujours regardé le monde comme ça, grâce aux choses que j'ai lues, aux gens que j'ai rencontrés, aux discussions que j'ai pu avoir, voire même parfois des films. Donc ayant l'habitude de fonctionner en examinant toutes les interdépendances entre les différents éléments de la société, du monde, de l'humanité, dans mes bouquins, je fais la même chose avec la même facilité.
T'as une vision en arborescence et tu descends au détail.
Je descends rarement au détail, en fait.
Pour raconter l'histoire, c'est bien logique.
Ah, mais je ne les pousse pas, les détails. En fait, ce qui est, je laisse la place à l'imaginaire du lecteur. Je m'arrange juste pour lui donner une toute petite piste et il se débrouille, il invente le reste. Quoi. De la même façon que je décris très peu. Le gros malin qui va me donner la couleur des yeux de mes personnages, il va être embêté sur 21 romans, il va en trouver 3.
Tu as écrit Étoile mourante avec Jean-Claude Dugnac. Comment s'est déroulée votre collaboration ?
Il y a 5 parties dans Étoile mourante. En fait, il y a 4 parties complètement indépendantes qui correspondent à chacune des branches de l'humanité en fonction. Et la 5e partie, c'est la rencontre. Voilà. La 5e partie, on l'a écrite ensemble, en partie en tac au tac et en partie assis l'un à côté de l'autre. Mais les 4 autres parties, on s'en est répartis de chacun. Ouais, attends. Ouais, Jean-Claude et moi, ça peut aller si on est un féminin, ça passe très bien. Et on a chacun choisi de travailler les parties que l'autre aurait dû écrire. Et on les a écrites comme l'autre les aurait écrites. Ça, c'était le départ. Mais en plus, on est repassé l'un sur l'autre. On avait le droit de correction permanent. Ce qui fait qu'au bout du compte, nous ne sommes sûrs que d'une chose. La première phrase du roman est de Jean-Claude. La dernière phrase est de moi. Ça doivent être les deux seuls qui n'ont pas été... où les deux auteurs ne sont pas intervenus. La volonté au départ, c'était qu'on progresse l'un et l'autre techniquement, c'est-à-dire que qu'il m'apporte ce que je ne savais pas faire ou ce qui m'effrayait un petit peu et que je lui apporte ça aussi. Donc, comme motivation d'écriture, c'est un petit peu spécial. Il se trouve qu'il avait un très bon sujet au départ. Quand il me l'a proposé, j'ai considéré ça comme un cadeau, j'ai un petit peu augmenté, gonflé le sujet. On a fait des allers-retours pendant un an, comme ça. Au bout d'un an, on avait 400 pages de scénario. Il a fallu tailler dans la masse. Hein. Donc on a supprimé pas mal de choses. Que maintenant, il a envie de remettre en scène. Et c'est pour ça qu'il y aura probablement un étoile... alors, on ne sait pas comment elle s'appellera. Étoile choucroutante. Ouais, étoile à matelas qui est pas... qui, à mon avis, va être très, très vendeur dans la SF.
Ouais, étoile là-bas aussi.
Et toi là-bas, ouais. Ah, avec 2B à Abba. Et, ouais. Et ça commence beaucoup. Par Waterloo.
Ça plaira beaucoup à Jean-Claude.
Oui, à Jean-Claude. Et puis on est sûr de faire une seule vente. C'est Francis Berthelot.
Oui.
Icosaèdre. T'as conscience que tout le monde ne sait pas ce que c'est ?
On est marre de prendre le lecteur.com. En fait, j'ai jamais pris le lecteur.com. Mais j'entends tellement d'auteurs dire « Oui, j'écris avec un vocabulaire de 1500 mots parce que les lecteurs sont des crétins. » Bon, en général, hein, curieusement, c'est les plus grosses ventes qui expriment ce genre de propos. Je vais même pas les trahir tellement je crois que tout le monde sait.
De toute façon, nous, on fait que du correct, du politiquement correct. On coupera tout, tu peux le dire. Je ne suis pas d'ennemi.
J'ai remarqué que tes personnages étaient des surdoués.
Oui, c'est. Alors, je suis obligé de dire oui. D'abord, c'est vrai. Pratiquement tous sont des autodidactes aussi. Ça aussi, je dois avouer que c'est vrai. C'est fait exprès, ben forcément, parce que je crois que si je l'ai choisi comme ça, il n'y a pas vraiment de hasard. Pratiquement tous. Allez, je vais dire que ça commence à évoluer depuis que je suis rentré dans le thriller. Je commence à avoir quelques personnages qui ne sont pas des surdoués. J'ai, comme beaucoup de romanciers, longtemps eu du mal à mettre en scène, disons, à faire vivre une histoire qui emporte le lecteur à partir du personnage du commun. Et pourtant, y a-t-il quelqu'un qui aime plus les raisins de la colère que moi? Je ne sais pas. Ou des souris des hommes, ou... voilà. Nous prenons même Colum McCann, qui est mon auteur préféré. Elle n'est pas en scène
les
de survie.
De la nuit.
Et enfin, la dernière.
Est-ce que tu as des questions?
à tes lectrices et tes lecteurs.
On a deux devant toi.
Qu'est-ce qui surprendrait? Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre maintenant sur un 22e ou un 23e roman dans ce que je ferai?
Que ce soit politique.
Ouais, c'est exactement ce que je pensais.
Absolument pas engagé.
Faire un bouquin apolitique, et ça sert à quelque chose. Ah, ça surprendrait. Ouais, mais j'ai ma réponse alors, hein.
Ouais.
C'est affreux.
Voilà.
Apolitique, ouais. Et peut-être une deuxième dans le même genre. Si comment percevriez-vous un personnage féminin que j'aurais écrit qui ressemble à un personnage féminin tel qu'écrit par Bernard Werber? Non.
Je sais pas, je ne lis pas assez Werber.
Une fourmi, quoi. Hein.
Parce que c'est... personnage qui soit autre qu'une forte femme.
Ouais, qui soit le faire-valoir du personnage masculin.
Que toi, tu écoutes ça?
Ouais.
Mais ce serait complètement à l'encontre de tes idées.
Hein? Bon.
Ouais, ah. Ouais, ce serait imaginable. Ouais.
Est-ce que tu pourrais le faire?
Non.
Voilà.
Non, de la même façon que je ne pourrais pas être politique, ne pas être politique.
Non seulement il ne pourrait pas le faire, mais ses premiers lecteurs l'engueuleraient tellement s'il osait faire une chose pareille qu'il ne pourrait pas finir le bouquin.
Sinon, tu pourrais essayer d'écrire pour Pomme d'Api. Non.
Non, on n'était pas à la piscine, il pleuvait. Pour conclure, on vous répétera qu'on a passé un excellent moment, qu'il faut surtout pas hésiter à aborder à Heyerdahl lors des dédicaces. C'est quelqu'un qui vous en êtes rendu compte, a plein de choses à dire.
Je voulais dire que j'avais lu 12 romans d'Heyerdahl, que je me suis jamais ennuyée et surtout jamais lassée. Merci à Heyerdahl.
Et après tous ces scoops, voici l'ultime.
Et j'aime collaborer.
Un petit ajout à cet épisode. Le 4 novembre va naître une nouvelle revue qui sera électronique sur le site www.angle-mort.fr. Cette revue électronique Angle Mort est consacrée aux littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy et fantastique. Elle comportera des nouvelles lisibles en ligne ainsi que des numéros complets à acheter pas cher sur le site. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que cela va donner. Le premier numéro comporte des nouvelles de Xavier Mauméjean, Aliette de Baudard, Laurent Kessler et Daryl Grégory. Tous ces textes sont inédits.